Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Si le déconfinement semble être pour bientôt, nombre d'entre nous scrutons tout de même le Vendée Globe 2020 avec quelque envie. Alors à défaut de vous emmener faire un tour en bateau, je vous propose une balade ce matin dans les rues de Toulouse. Une balade à travers l'histoire, mais une histoire un peu particulière, l'histoire de sa justice et de certaines de ses affaires les plus marquantes. Une balade un peu lourde, diront certains. Une balade pour nous rappeler peut-être qu'à l'heure où l'on nous demande de réfléchir sur le monde de demain, celui d'aujourd'hui n'est déjà pas si mal que cela. Petite balade criminelle dans Toulouse, rien que cela, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec vous, Michel Aliaga, vous êtes architecte retraité et conférencier occasionnel et bénévole. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à chacun.
Merci de nous servir de guide en ce vendredi. C'est donc une balade dans les rues de la Ville Rose que l'on va faire, une balade à travers le temps et l'histoire, et une balade à travers les grandes affaires criminelles. On peut en citer une déjà que nombre d'entre nous doivent connaître, l'affaire Calas. Je me suis dit, quand même en préparant l'émission, quelle mouche a piqué mon invité de ce matin ? Qu'est-ce qui vous a poussé, alors que vous n'étiez pas historien de formation, Michel Aliaga, à vous plonger dans cette histoire de la justice ou cette histoire criminelle de Toulouse ?
Alors déjà, je suis un passionné d'histoire depuis au moins l'âge de 6 ans. Donc l'histoire, c'est même ce qui m'a conduit à choisir ma profession d'architecte. Et je suis aussi un Toulousain passionné, puisque je suis membre des Toulousains de Toulouse. Et parmi les histoires de Toulouse, à un moment de ma vie, je me suis intéressé aux bâtiments qui concernaient l'histoire judiciaire de la ville. Et j'ai découvert tout un tas de choses très, très, très intéressantes. Qui m'ont amené justement à pousser un peu plus loin mes investigations et à rentrer dans des affaires un peu dures, mais c'est pas trop l'aspect dur qui m'intéressait, c'est l'aspect humain de ces affaires qui m'intéressait.
Alors on va le découvrir, on va commencer dans cette avant de parler de l'affaire Calas et de l'affaire Cécile Combette, ça va être donc les deux affaires que vous allez nous raconter, et puis vous allez nous dire aussi ce qui vous a intéressé là-dedans, et à travers ça on se promènera dans les rues de Toulouse. La première balade que l'on va faire, c'est donc à travers l'histoire et ce quant à la justice, de la manière dont la justice est rendue en France et dans le sud-ouest, et particulièrement à Toulouse. Alors quel est le premier lieu peut-être auquel vous nous emmèneriez pour cette balade virtuelle pour évoquer la justice féodale ?
Alors si on veut respecter un certain ordre chronologique, effectivement, on pourrait partir tout de suite sous terre. Alors c'est un sous-terre très, très bien aménagé qui se trouve sous le palais de justice de Toulouse où on a créé une magnifique galerie archéologique.
Et il faut situer, c'est pas très loin du pont Saint-Michel, on est vraiment presque dans l'hypercentre. Hein.
Voilà, c'est sur les allées Jules Guesde, c'est dans les sous-sols du palais de justice. Et donc si on descend dans ces sous-sols, on va découvrir des vestiges antiques, mais aussi on va découvrir des vestiges, quelques-uns, pas très nombreux, du palais des comtes de Toulouse. Et... Pourquoi j'évoque ce lieu et ces comtes de Toulouse ? Parce que le début de l'histoire judiciaire de la ville est beaucoup plus loin que ça de notre province du Languedoc. Elle commence ici, puisqu'on est sur le pouvoir judiciaire féodal. Le comte de Toulouse, c'est le seigneur indépendant. Toulouse étant un État indépendant, le comte de Toulouse étant un État indépendant jusqu'au début du XIIIe siècle, et donc l'autorité suprême civile sur place, c'est le comte de Toulouse. Et ce lieu, alors il en reste peu de choses, mais ce lieu est un des lieux de l'histoire de la justice féodale dans Toulouse.
Alors comment se rendait la justice à cette époque ?
Oh ben, c'était une justice très... Alors il y a une particularité générale, puisqu'on est sur un territoire de droit écrit, c'est une justice féodale souvent arbitraire, pas aussi dur qu'on a pu le penser à un moment, parce qu'on a beaucoup caricaturé la justice à cette époque. Hein. Et puis il y a eu d'autres périodes où on l'a un peu sacralisé. Je ne vais pas citer l'image de Saint-Louis qui rend la justice sous son chêne. Mais la justice féodale, c'est une justice qui dispose de textes et de dispositions, qui est parfois arbitraire, parce que c'est quand même le pouvoir du seigneur. C'est la même justice qui va s'appliquer dans les campagnes, hein, puisque à partir de l'an 1000, on a la constitution d'une France féodale, y compris chez nous. Et donc le seigneur du lieu, que ce soit le comte de Toulouse ou le vicomte de Carcassonne ou que sais-je, a cette autorité de fait de juger les gens. Alors il a tout un personnel à sa disposition pour les juger, mais c'est là l'origine de cette législation féodale.
Alors, on continue la balade. La suite de la balade nous emmène, sauf erreur de ma part, place du Capitole, où là, on peut décrire un lieu qui va nous permettre de parler de la justice du temps de l'Ancien Régime. Quel est ce lieu ? C'était un donjon, c'est ça, qui se dressait
alors,
sur la place du Capitole ?
Le lieu, en fait, en plus, ce lieu nous permet de faire la transition entre ce dont je viens de parler sur la justice féodale et la justice qu'on peut appeler justice capitulaire, puisque c'est justement le comte de Toulouse, à la fin du XIIe siècle, qui octroie au Capitoule de Toulouse des pouvoirs judiciaires et de police qui sont énormes. Ça va être une particularité de la ville de Toulouse jusqu'à la Révolution. Les capitouls vont disposer d'un pouvoir de justice et de police considérable, que même Louis XIV, avec son pouvoir absolu, ne va pas arriver à contraindre tout à fait. Et donc le lieu d'expression de la justice des capitouls. Alors il faudrait se rendre square Charles de Gaulle, de l'autre côté du Capitole, et se rendre sur le lieu où se trouvent les jeux d'enfants, juste face à la poste. Et là, si vous regardez sur le sol, vous allez apercevoir un pavement qui dessine une marque ronde un peu plus sombre, et c'est la marque de la présence de la tour Charlemagne. Il se trouve que la tour Charlemagne, qui est à l'origine du Capitole lui-même, va être le noyau du lieu de justice et de police des Capitouls.
Donc on y enfermait les prisonniers, mais on les torturait aussi, non ?
Ah oui, on, les Capitouls disposaient de tout le dispositif pour juger, aujourd'hui on dirait en première instance. On reviendra après sur la suite, mais en première instance, en juridiction civile et criminelle, les capitouls pouvaient juger. Donc ils avaient tout le matériel bâti pour exercer cette justice. Alors il y avait la tour, donc Charlemagne, qui va finir par servir de lieu de torture. De chaque côté de la tour Charlemagne, il y avait d'un côté la prison des femmes, de l'autre côté la prison des hommes. Et un peu plus loin, à peu près à l'endroit qui se trouve aujourd'hui entre le donjon du Capitole et la façade du Capitole, il y avait la salle où les capitouls jugeaient les prévenus. Donc il y avait tout un ensemble judiciaire construit, dédié à cette tâche. Et il y avait, dès la fin du Moyen-Âge, deux capitouls parmi les huit, dont la fonction était de gérer la justice et la police.
Alors, même question que pour la justice féodale, mais peut-être un peu plus dans le détail. Enfin, je veux dire, quels étaient les... À grands traits, à quoi ressemblait cette justice ? Avait-on fait un pas en avant, d'une certaine manière ?
Non, pas trop. En plus, cette justice, elle a évolué en fonction de l'évolution de la justice au niveau du royaume de France, après l'annexion du comté de Toulouse à la France. Je ne souhaiterais pas être péjoratif, elle est peut-être plus clientéliste parce qu'elle est au plus près des gens. C'est une justice qui a les défauts et les qualités de la justice de l'ensemble du royaume. À part qu'elle est rendue par des capitouls, je vous rappelle que les capitouls changent tous les ans, même s'ils reviennent plusieurs fois dans leur mandat de capitouls, mais ce ne sont pas des gens qui ont une formation spécifique de juge. Hein, ce sont des bourgeois ou de la petite noblesse toulousaine, ils n'ont pas de formation juridique. C'est pour ça qu'ils sont assistés systématiquement par tout un personnel judiciaire qui va les aider à conduire leur action, mais ils sont libres de juger et de procéder comme ils veulent.
Justice qui était donc, alors évidemment en histoire c'est jamais bon de faire de relire le passé à la lumière du présent, mais les exécutions capitales étaient fréquentes, les pendaisons et autres. Vous aviez un autre lieu comme ça à nous citer qui rappelait qu'on cherchait à dissuader les citoyens de l'époque de quelques mauvais agissements.
Oui, quelquefois, très souvent de mauvais agissements, quelquefois des agissements moins graves, mais qui étaient punis avec une sévérité extrême. En particulier, alors c'est très curieux à découvrir, les domestiques étaient jugés très sévèrement. Bon, alors les assassins et les voleurs étaient jugés en fonction de leurs crimes, mais souvent les domestiques, pour des choses très, très communes et très bénignes, étaient très sévèrement punis. Alors, c'est un exemple.
Alors ces deux lieux, c'était donc aux portes nord et sud de Toulouse ?
Ben, il y a le lieu d'exécution, proprement dit, qui est souvent la place Saint-Georges, mais pas que. Quelquefois, c'est la place Saint-Étienne, mais très, très rarement. Et c'est aussi la place du Salin, tout près du Parlement. Et une fois que les accusés étaient exécutés, il y avait une tradition, c'est qu'on les amenait à la salade. Alors aujourd'hui, on peut se rendre dans ces deux salades. Alors je ne parle pas de légumes, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une salade. Il y a la salade des Minimes, qui a été déplacée au XVIe siècle et qui se trouverait aujourd'hui à peu près au niveau de la barrière de Paris entre l'avenue de Fronton et l'avenue de Launaguet, dans un site qui s'appelle toujours La Salade. Il y a une place de La Salade. Et La Salade, qu'est-ce que c'est ? Ben, La Salade, ce sont ce qu'on appelle généralement les fourches patibulaires, c'est-à-dire le gibet, c'est-à-dire que les condamnés, une fois exécutés, étaient pendus jusqu'à décomposition des corps à l'entrée de la ville. Alors il y avait celle des Minimes, et puis il y avait celle au sud, qui se situerait à peu près aujourd'hui au niveau du 38 de la rue Saint-Roch, qui était plutôt destinée à la justice royale et au Parlement, où on faisait la même chose, il y avait un grand gibet où on suspendait les corps, de façon à ce que les gens qui entraient dans la ville ou qui sortaient dans la ville par le nord ou par le sud aient sous les yeux ce qui risquait de leur arriver s'ils ne se comportaient pas très bien.
Alors il y a eu des grandes réformes de cette justice, on en parlera peut-être plus tard, donc sous Henri II en 1566, c'est l'édit de Moulins, vous le préciserez, et puis sous Louis XIV. À quoi ressemblait peut-être, pour juste parler de l'époque moderne, et puis après on y reviendra à l'occasion de l'évocation des deux affaires dont on va parler, Calas et Cécile Combette. Vous vouliez préciser, donc après il y a la justice napoléonienne qui est notre justice. Là, si on choisit un lieu à Toulouse, quel est-il ?
Le palais de justice
actuel,
qui est presque contemporain du code Napoléon, qui est 20 ans plus tard, mais qui est l'expression de la justice du 19e siècle, fondée sur le code Napoléon, qui est toujours en vigueur, même s'il a été heureusement très très perfectionné et amélioré.
Pour ceux qui n'en sont pas familiers, donc, le code Napoléon, qu'est-ce qu'il régit ?
Le code Napoléon de 1804, il régit tout un tas de choses, parce qu'on a l'impression que Napoléon avait prévu tout, la gestion du territoire bien avant l'heure. Il pose toutes les bases communes de justice et de police pour l'ensemble du territoire de l'Empire français.
Ben voilà pour cette première balade. On s'arrêtera sur l'un ou l'autre aspect. On va parler donc de la fameuse affaire Calas. Cette fois, l'affaire Calas, il faut se rendre dans Toulouse au 50, aidez-moi, je me perds dans mes fiches.
Rue des Filatiers.
50 rue des Filatiers. On va vous retrouver dans quelques instants.
Oh.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Petite balade criminelle dans Toulouse, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pas très réjouissant diront certains, mais c'est une conférence d'une certaine manière que donne Michel Aliaga, qui est architecte retraité et conférencier, donc bénévole et occasionnel. Il nous emmène dans les rues de Toulouse à travers son histoire judiciaire, et entre autres à travers cette fameuse affaire Calas. Alors l'affaire Calas, c'est une affaire nationale, probablement qu'on en a tous entendu parler à un moment ou un autre, même si on ne s'en souvient plus, entre autres quand on était au lycée et que l'on étudiait Voltaire, on y reviendra. Mais on va commencer par suivre Monsieur le Guide et donc se rendre au numéro 50 de la rue des Filiatiers. Qu'est-ce qu'il reste là-bas, Michel Aliaga?
Eh bien, il reste tout le témoin construit de l'affaire, ce qui est une exception par rapport à tout ce qu'on peut évoquer comme lieu aujourd'hui. Il reste la maison à pans de bois des Calas. Il reste le couloir qui a été emprunté par la famille à un moment. Il reste la boutique et l'arrière-boutique où on a trouvé le corps du fils aîné des Calas. Il reste tout.
Alors c'est donc une histoire de famille, donc cette famille était réunie, la famille Calas, lui est marchand drapier, installé depuis 1740, donc à Toulouse, c'est une famille de protestants, il a donc une épouse, il a donc cinq enfants, c'est bien ça, hein ?
Oui.
Cinq enfants, et puis un ami passe, un certain Gobert Lavesse. Et la réunion ou le déjeuner, je crois que c'est un déjeuner.
C'est un souper.
Souper se finit par un drame puisque cet ami, en repartant, découvre l'un des fils pendu. On le sait de manière précise, c'est-à-dire que ces faits sont rapportés.
Oui, parce que l'instruction va être, alors même si elle a été bâclée, si elle a été partiale, il y a une foule innombrable de témoins qui se sont rendus sur les lieux du drame, donc ce 13 octobre 1761 vers 22h, et en particulier le principal accusateur dans cette affaire, qui est le capitoul David de Baudrigue, qui est le capitoul en charge de la justice, et qui se rend immédiatement sur place après 22h sur les lieux du drame.
Alors cette famille va être donc accusée et vous allez nous raconter la suite de l'histoire. Mais il faut rappeler le contexte peut-être avant de parler de la manière dont l'affaire a été instruite et puis de l'entrée de Voltaire dans cette histoire. Quel est le contexte? Les protestants à l'époque à Toulouse, il n'y en avait eu plus beaucoup.
Non, alors le contexte, il est très particulier parce qu'il est à la fois, alors en n'employant pas de grands mots, c'est-à-dire international, il est européen le contexte. Il est national et il est local. Il est européen. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toutes les puissances catholiques, tous les souverains catholiques en guerre contre tous les souverains protestants. C'est une guerre qui est catastrophique pour tout un tas de pays, dont la France, puisqu'on va la perdre. Et donc on est en période de guerre, ce qui rend un climat un peu particulier, en période de guerre catholique-protestant, à nouveau au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est le contexte européen. Au niveau local, il y a un autre contexte qui est très particulier, c'est que Toulouse fête tous les ans depuis 1562.
J'ai découvert ça, incroyable. La grande délivrance.
La grande délivrance. Alors c'est un épisode assez tragique de l'histoire de la ville. En moment de la guerre de religion, il va y avoir une espèce de guerre civile urbaine entre les catholiques et les protestants. À un moment, les protestants vont prendre le dessus. Et puis, en fin de compte, ce sont les catholiques qui vont reprendre le dessus. Ayant pris le dessus, ils vont à la fois massacrer un certain nombre de protestants et expulser les autres.
10 ans avant la Saint-Barthélemy.
10 ans avant la Saint-Barthélemy. Toulouse a été précurseur.
1562, donc.
Donc 1562, on a fait notre pré-Saint-Barthélemy.
Ce qui veut dire qu'à l'époque de la famille Calas, des protestants, il en restait quelques centaines dans la ville.
Il en restait quelques centaines, puisque beaucoup avaient émigré justement dans des villes protestantes, Montauban, Nîmes, La Rochelle, toutes ces villes protestantes qui étaient connues et qui étaient des places fortes protestantes à l'époque. Donc c'était exilé soit à l'étranger, soit dans des villes à majorité protestante. Mais à Toulouse, il en restait très peu. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est que ces gens n'avaient pas, quasiment pas d'existence civile officielle. Quand on était protestant à Toulouse, on n'existait quasiment pas, puisque pour accéder à certaines charges, il fallait se convertir. Pour se marier, il fallait se marier de façon catholique. Donc c'est des gens qui vivaient une certaine négation civile.
Alors ça n'est pas sans lien avec l'histoire, puisqu'on laisse entendre que le fils serait suicidé parce qu'il voulait se convertir à la religion catholique et que son père s'y serait opposé. En tout cas, c'est comme ça un peu que le fer est porté par le Capitoul, c'est ça ?
Oui, en fait, le Capitoul, quand il se présente sur les lieux du drame en octobre 1761, lorsqu'il arrive, il est plutôt conciliant avec les Calas. Il s'aperçoit que ces gens ont perdu un enfant. Alors, le problème, c'est que on pense que le fils aîné Calas s'est pendu. Enfin, les médecins légistes découvrent des traces de strangulation. Mais juste avant que le Capitoul arrive, la famille l'a dépendu pour une raison bien simple, c'est-à-dire qu'à Toulouse, lorsqu'on se suicidait, on était jugé coupable d'assassinat de soi-même. Et le cadavre du suicidé était traîné dans les rues face contre terre, et une fois que la balade était finie, on le jetait dans une décharge publique. Donc lorsqu'ils ont compris ça, la famille Calas a tout fait pour dépendre le pendu et faire croire à une autre forme d'assassinat que le suicide. Donc lorsque le Capitoul arrive, il constate le décès et puis il entend les ragots autour de lui qui lui font savoir que les Calas sont protestants. Et là, David de Baudrigue change radicalement d'attitude. Et il va faire quelque chose qui est en infraction avec ce qu'on appelle le code Louis édicté par Louis XIV entre 1667 et 1670. Dans le code Louis, il est interdit d'emprisonner quiconque s'il n'avait pas été pris sur le fait, en train d'assassiner quelqu'un, ou s'il n'a pas avoué, ou s'il ne s'est pas enfui. Donc les Calas n'ont rien avoué, ils n'ont pas été pris en flagrant délit, et ils ne se sont pas enfuis. Donc le Capitoul n'avait pas le droit de les arrêter, et il les arrête tous, y compris la bonne, qui était catholique, le soir même.
Alors, il cherchera donc ce Capitoul 20 preuves contre donc Jean Calas qui seront obtenues. Ce pauvre Jean Calas finira donc torturé et brûlé par 11 coups, puis adoucissement de peine. On l'étrangle avant de livrer son corps aux flammes et entre après, donc dans la danse, le mot est fort mal choisi, dans l'affaire Voltaire. Alors comment Voltaire intervient dans cette affaire ?
Alors avant d'évoquer Voltaire, sur la procédure Calas, donc il est jugé en première instance par les Capitouls, qui n'arrêtent pas de faire des erreurs judiciaires. Alors volontairement ou involontairement, on ne le sait pas, mais à force d'accumuler ces erreurs judiciaires, l'affaire passe en appel. Et ce n'est plus les Capitouls, ce n'est plus le Capitole qui juge, c'est le Parlement de Toulouse. Et l'affaire est transférée au Parlement de Toulouse qui va ne faire que reprendre les éléments d'instruction à charge du Capitoul David de Baudrigue et qui va finir par condamner sur ces mêmes éléments Calas à la peine de mort. Alors Calas va être torturé pendant toute la procédure. Il va être torturé par les Capitouls, il va être torturé lorsque l'affaire va être au Parlement de Toulouse. Et en fait, il va être donc condamné à être exécuté place Saint-Georges sur la Roue, où il est torturé pendant 2 heures, et où pendant ces 2 heures, il continue de clamer son innocence.
Ah, donc c'est quand même une affaire, on va dire,
oui, et c'est
un scandale.
Et c'est très particulier parce qu'en France, à cette époque, selon le code Louis, on n'avait pas le droit de condamner à mort quelqu'un qu'il n'avait pas avoué et contre lesquels on n'avait pas de charges suffisantes et de preuves suffisantes, ce qui est terrible.
Alors Voltaire, donc, c'est donc un commerçant Audibert qui rencontre Voltaire, qui fait rencontrer donc l'un des fils Calas, et Voltaire se saisit de l'affaire. Et à l'occasion de la parution donc, de son traité sur la tolérance en 1763, il fait jouer en fait toutes ses relations européennes et l'affaire est ressortie jusqu'à faire que cette dernière soit rejugée, c'est ça ?
Tout à fait. Alors Voltaire, il avait déjà tout un tas de procès iniques à utiliser pour sa campagne, mais cette affaire Calas l'a peut-être touché plus qu'une autre, et donc il va mobiliser l'Europe entière les princes de l'Europe entière, toute la cour à Paris et à Versailles, tous les intellectuels, et il va forcer le ministre de la Justice, M. de Saint-Florentin, à saisir le roi. Et le niveau suprême de la justice en France, au XVIIIe siècle, c'est le Conseil du roi. Il n'y a pas d'instance supérieure au Conseil du roi en justice. Et le Conseil du roi va demander au Parlement de Paris et au tribunal des requêtes de reconsidérer l'affaire avec toutes les pièces. Et
l'affaire est rejugée donc en 1765.
L'affaire est rejugée à Paris, donc elle
est assez rapide, en fait.
Délocalisée. Oui, oui. Mais la procédure avait été tellement inique que c'était pas trop difficile. Et donc le Conseil du roi en 1765 va déclarer Calas innocent. Il était mort, tant pis pour lui. Et surtout, il va
Montrer les fautes des Capitouls.
Démontrer les fautes des Capitouls, mais alors ça, c'était facile. Et du Parlement.
Et du Parlement. Et alors, pour autant, jamais la justice locale, dites-vous, en fait, n'est revenue sur son erreur.
D'où les particularismes de cette justice d'Ancien Régime. Le roi, le Parlement de Paris, va imposer l'innocence de Calas au royaume entier. À part qu'à Toulouse, le Parlement de Toulouse refuse d'enregistrer l'édit. En plus, il y avait des rivalités entre le Parlement et le roi Louis XV
Ça ne date pas d'hier que les gens ici aient du tempérament.
Voilà. Et donc, Calas, logiquement, n'est pas considéré comme innocent à Toulouse jusqu'à la Révolution.
Alors, quand les cendres de Voltaire donc, seront portées au Panthéon, on fera donc défiler les filles de Calas habillée en vestale, victime de la religion et du pouvoir monarchique. Il faut dire peut-être un mot aussi de la démarche de Voltaire, en fait, quel était le sens peut-être de son traité sur la tolérance ou de la logique qui était la sienne à l'époque.
Oui, alors la bonne chose dans toute cette triste affaire, c'est effectivement l'écriture par Voltaire du traité de la tolérance. Alors je rappelle que au lendemain des affaires de l'attentat de Charlie Hebdo, le traité de tolérance s'est vendu en masse, donc d'où la symbolique de ce traité. Voltaire, lui, il est quelquefois opportuniste, mais enfin, il essaye de régler ses comptes avec le pouvoir royal, avec les parlementaires, mais aussi avec les religions, pas que les catholiques, parce que sa première réaction... lorsqu'on lui a annoncé l'affaire Calas, ça a été de dire « Ah ben c'est bien fait pour eux, ces protestants sont au moins aussi intolérants que les catholiques ». Après, il a compris que ce qui s'était passé. Dans sa démarche intellectuelle et dans sa réflexion philosophique, cette affaire a été le bon exemple pour écrire son traité, qui est d'ailleurs dédié à l'affaire Calas.
Il avait traité la femme d'imbécile huguenote, dites-vous.
Oui, oui, oui. La pauvre veuve Calas, lorsqu'elle lui a été présentée, alors c'était une femme simple, hein, c'était une petite commerçante toulousaine face à ce grand philosophe, et il l'a interrogé comme il a interrogé les enfants Calas, et elle a certainement pas su argumenter au niveau où Voltaire l'espérait pour qu'il la prenne en considération.
Alors la postérité de l'affaire peut-être, et sa postérité à Toulouse, vous qui êtes toulousain semble-t-il depuis le plus longtemps que moi, l'affaire Calas, il y a eu de nombreux ouvrages et téléfilms. Ici à Toulouse, ça traîne encore, l'affaire Calas, c'est une de, comment dire, ça fait partie, j'allais dire, du patrimoine toulousain, le mot est mal choisi, mais...
Oui, c'est la grande affaire toulousaine. Et il y a une association, alors je ne sais pas si elle a pu rouvrir ses locaux, qui se proposait d'installer sur les lieux du drame une espèce de mémorial de cette affaire. Il y a une plaque qui est apposée sur la maison, il y a une plaque qui est apposée sur la place Saint-Georges pour commémorer le martyr, entre guillemets, de Calas.
Vous dites que l'association, là, en l'occurrence, elle s'appelle Jean Calas, l'Europe nous regarde ?
Oui.
Ça veut dire quelle est la signification?
Je ne sais pas, je n'ai pas été plus loin, puisque je n'ai jamais pu les rencontrer, puisqu'au moment où ils devaient créer ce lieu de mémoire, ils ont eu quelques problèmes avec les administrations des monuments historiques, me semble-t-il, et la chose a été retardée. Alors,
lieu emblématique, en tout cas, de la manière dont la justice doit être normalement rendue.
C'est voilà. Ce qu'on entend derrière. En tous les cas, je sais que je dois beaucoup au président de cette association, parce qu'un jour où je faisais visiter... le lieu à des amis, il a accepté de nous ouvrir les lieux et j'ai pu raconter l'histoire sur les lieux mêmes du drame, c'est-à-dire dans le couloir qu'ont emprunté le fils et l'invité des Calas le soir du, d'octobre 1761, de voir la porte qui donnait sur l'arrière-boutique où on a trouvé le corps de Marc-Antoine Calas. C'était un moment très fort, ça. C'était très particulier.
Allez, on va faire une pause et puis on va parler d'une autre affaire où là, on renverse un petit peu l'histoire d'une certaine manière. Cette fois, c'est un catholique qui va être accusé par des protestants. C'est donc l'affaire Cécile Combette.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Petite balade criminelle dans Toulouse, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Michel Aliaga, architecte retraité et conférencier bénévole et occasionnel. Michel Aliaga, donc on va se rendre en un autre lieu à Toulouse pour parler donc d'une affaire, l'affaire Cécile Combette. Et alors là, c'est un lieu qui était un lieu des frères des écoles chrétiennes, mais ce n'est pas la maison qu'ils ont encore en haut de la dite côte pavée, c'était un autre endroit. Où est-ce qu'on est et à quoi ça ressemblait?
Alors l'école des frères de l'école chrétienne, le site, c'était un site assez gigantesque qui s'étendait de part et d'autre d'une rue. C'est pour se dire si l'ensemble était conséquent, parce qu'il y avait une partie pensionnat et une partie institution proprement dit.
On est au 19e siècle, milieu du 19e siècle.
On est en 1847-48. Et donc, est installé là depuis plusieurs décennies.
Donc où exactement?
Alors, l'école a disparu. Il ne reste de l'école, je crois que c'est rue Caraman, il ne reste que le portail d'un des bâtiments. Derrière, il y a une école supérieure. Et en fait, le jardin de cette institution religieuse est aujourd'hui occupé par la Poste Saint-Aubin, Il faut savoir qu'à l'époque, donc il y avait cet ensemble des frères de l'école chrétienne, leur jardin à la place de la poste Saint-Aubin, et surtout en mitoyenneté au-delà, à la place de l'église Saint-Aubin et de la place Saint-Aubin, il y avait un immense cimetière désaffecté qui était le cimetière Saint-Aubin, puisque c'est exactement à ce moment-là qu'on transférait tous les corps au cimetière de Terre-Cabade, puisque le cimetière de Saint-Aubin devait être désaffecté.
Alors, ça n'est pas sans lien avec l'histoire. Donc, l'histoire, là, c'est l'affaire Cécile Combette. C'est donc le jour du drame, c'est donc le 15 avril 1847. Une certaine donc Cécile Combette est retrouvée, assassinée et violée. Et rapidement, la justice se tourne et trouve un accusé. Alors, son accusé dans... son nom civil, c'est un certain Bertrand Ponce, c'est ça ?
Non, c'est...
Ah pardon, lui, c'est le relieur.
C'est Louis Bonafou.
Louis Bonafou, pardon. Qui est donc, sinon, frère
Léotade.
Frère Léotade.
Puisque c'est son nom en religion.
Alors, Cécile Combette, en en parlant un petit peu à certains de cette émission, il me disait, ah oui, bien sûr, l'affaire Cécile Combette, preuve qu'à Toulouse, elle a marqué. C'est pareil si vous deviez commencer par dire les circonstances de ce crime et à quoi ressemblait cette affaire.
Alors, les circonstances, on va peut-être parler du contexte. En plus, on est dans une affaire, cette affaire Cécile Combette est presque l'inverse, le pendant de l'affaire Calas. L'affaire Cécile Combette, elle a d'abord une particularité, c'est qu'elle va se situer sur deux régimes politiques dans l'histoire de France. C'est-à-dire que l'instruction va être menée en 1847 par le procureur du roi. Au milieu du procès arrive la révolution de 1848. Et c'est le procureur de la République qui va prononcer la peine finale. C'est très particulier, on est dans un moment très très particulier de l'histoire. Et on parlait du retentissement de l'affaire à Toulouse, c'est sûr, l'affaire est tellement abominable, et surtout en ce moment où on parle beaucoup de violences faites aux femmes et aux enfants, elle est vraiment atroce. Mais c'est une affaire qui va avoir un retentissement, alors là je peux dire international, puisqu'on a créé des complaintes sur la mort de Cécile Combette, qui paraît-il ont été chantées et traduites à Londres, et même à New York, paraît-il.
Alors, pourquoi elle est devenue aussi célèbre? À cause de l'atrocité du crime ou des suites?
Alors elle est devenue célèbre, alors à cause de l'atrocité du crime, qui est vraiment épouvantable, elle est devenue célèbre parce que c'est une affaire qui se juge sur deux régimes différents, et elle est aussi révélatrice parce qu'elle traduit une inversion des mentalités toulousaines par rapport à l'affaire Calas. L'affaire Calas, on a une ville extrêmement pratiquante de la religion catholique qui malmène un protestant. Dans l'affaire Cécile Combette, c'est terrible, Toulouse a radicalement changé, puisque le roi Louis-Philippe, qui est encore régnant au tout début du drame, déteste Toulouse, qu'il appelle la ville rouge. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de statut de Toulouse place de la Concorde, parce que le roi n'en voulait pas. Donc c'est une ville qu'il appelle ville rouge, ville socialiste, et c'est une ville qui est devenue anticléricale, mais à un niveau qui est caricatural. C'est-à-dire que les magistrats qui vont juger l'affaire Cécile Combette, qui sont pourtant de grands bourgeois et pour certains de petits aristocrates, sont pétris d'un anticléricalisme qui est caricatural.
Alors, ce brave frère Léotade ou Louis Bonafou, il est rapidement désigné à la vindicte ou vu comme en fait le criminel ?
Alors là, on est à l'inverse de l'affaire Calas. Lorsque l'on découvre le corps de cette pauvre Cécile qui a donc été battue à mort après avoir été violée, il va y avoir une enquête exemplaire, de police exemplaire. C'est-à-dire que c'est incroyable, on va mettre en place 4 légistes. On va demander à des architectes de dresser le plan de tout le site pour comprendre comment a pu se passer l'affaire. L'enquête de police est menée d'une façon extraordinaire et précise. Et cette enquête de police va conclure très vite à une évidence, c'est que la jeune fille a été tuée dans l'enclos de l'école des frères. Et que c'est inéluctable. Alors, au début, on a pensé que ça pouvait être son employeur, Comté, le relieur, qui avait déjà eu maille à partir pour des affaires de mœurs avec la police, mais il va être très vite disculpé. Et donc, les policiers, les enquêteurs, vont tout de suite comprendre que, forcément, le meurtrier provient de l'institution religieuse. Et l'institution religieuse va d'ailleurs assez réagir assez, d'une façon assez maladroite. Elle va vouloir forcément se disculper. Elle va pas y arriver. Et donc, inéluctablement, on va traduire devant la police les quatre frères qui étaient présents au moment du drame. Et parmi ces quatre frères, il y a donc ce pauvre Louis Bonafous, frère Léotade, qui s'occupait de l'intendance dans l'institution. Et parce qu'il s'occupe de l'intendance et parce qu'on va retrouver un indice...
un vêtement.
La fameuse chemise tachée, alors que toutes les chemises appartenaient à l'ensemble de la confrérie, mais c'est ce frère qui s'occupait de sa distribution. C'est sur lui que la justice va jeter son dévolu, et c'est lui qu'on va accuser.
Donc, si vous dites qu'au début, on a mis beaucoup de moyens et que c'était exemplaire, après, ça devient uniquement à charge, et ce brave frère est condamné au bagne.
Voilà.
Au bagne à Toulon.
Alors, l'enquête est parfaitement menée. Forcément, alors on peut se dire, lorsqu'on connaît la vérité, lorsqu'on ne connaît pas la vérité, on pourrait tout à fait penser que cet homme était coupable, parce qu'en fait, c'est un de ses frères qui est coupable, mais ça, on le saura 19 ans après. Tant qu'on ne le sait pas, jusqu'en 1856...
C'est un autre frère des écoles chrétiennes.
C'est un autre frère.
Un ancien frère des écoles chrétiennes.
Voilà, c'est un ancien frère. Non, il était frère au moment du drame.
D'accord.
Voilà, mais après, il va avoir une vie très, très aventureuse. On a su cela bien après la mort de ce pauvre Louis Bonafous. Donc, tout accuser un frère de cette institution, et c'est sur ce pauvre Louis Bonafous que la justice s'est précipitée. Et comme on avait un procureur du roi, puis de la République, et un juge fortement anticlérical, on a dit des atrocités... sur l'institution elle-même et sur le fait qu'un religieux était forcément coupable, qui sont monstrueuses dans ce jugement.
Surtout que ce brave frère Léotade avait l'air d'être le parfait innocent, l'agneau par excellence, non, si j'ai
exactement,
compris.
C'est... Exactement ça, c'était quelqu'un d'origine très, très pauvre de l'Aveyron, me semble-t-il, qui n'avait pas les moyens de se défendre. Et dès le début de l'affaire, on l'a jeté dans un cachot. Et les quelques témoins qui pouvaient plaider en sa faveur ont été systématiquement mis en prison et n'ont pas osé retémoigner pour lui après, tellement les juges étaient acharnés à vouloir condamner ce pauvre Léotade.
Alors rappelez-moi, donc il a été condamné à mort, mais sa peine a été transformée, c'est ça ou alors,
Non, c'est-à-dire que là aussi, on dit que l'enquête a été bien faite, mais on n'avait pas de preuves absolues que ce soit le frère Léotade qui ait tué Cécile Combette. Ce qui est une indication, quand même, le fait qu'on les condamne au bagne, alors qu'à cette époque, les violeurs d'enfants étaient exécutés alors, très rapidement, le fait qu'il y ait eu des doutes et que Léotade a été défendu par un avocat extraordinaire, puisque beaucoup d'avocats ont suivi ce procès, qui est un procès exemplaire, qui a été relaté dans la France et dans l'Europe entière. Donc, on ne l'a pas condamné à mort, on l'a condamné au bagne. Et ce pauvre garçon est arrivé au bagne. Il y a vécu un an ou un peu plus d'un an.
2 ans, je crois, oui.
Et il s'est comporté saintement.
Et il est mort comme un saint homme. Hein.
Et il est mort comme un saint homme. Les compagnons forçats l'appelaient le forçat de Dieu.
Voilà, il était doux, serein et calme, arme habituelle des gens d'église. Tous savaient ce que c'était quelqu'un d'entre eux. Enfin bref, tout le monde avait vu la sainteté de cet homme. Et j'ai même vu, et je ne retrouve pas le titre, qu'il y a un livre qui a été écrit, semble-t-il, sur ce frère qui dit la sainteté de son chemin. Il nous reste encore un petit peu de temps, Michel Aliaga. Et puisque vous avez l'air féru d'histoire et de patrimoine, je vous propose de nous redire un mot d'une association que vous avez évoquée donc, au début de l'émission, qui, dites-vous, est une institution à Toulouse. Les Toulousains de Toulouse, qu'est-ce que c'est que cette institution ?
Alors, les Toulousains de Toulouse, c'est une institution sacrée. C'est la première des institutions, on va dire, de défense du patrimoine de l'histoire de Toulouse, puisqu'elle s'est créée à la fin du 19e siècle, et qu'elle a à son avantage d'avoir sauvé une très très grande partie du patrimoine toulousain. Moi, alors, lorsque j'étais enfant et que je parcourais les rues de Toulouse pour découvrir son patrimoine et son histoire, je savais parfaitement que cette institution existait, les Toulousains de Toulouse. Je connaissais la publication qui datait depuis donc la fin du 19e siècle de la revue de cette association qui s'appelle l'AOTA. Et pour moi, quand j'étais adolescent, entrer dans les Toulousains de Toulouse, c'était comme accéder au Graal. C'était le et j'ai eu la chance.
Et il y a des prérequis pour y rentrer ou
non? Il faut se faire parrainer, aimer Toulouse et aimer son patrimoine et vouloir le défendre surtout parce qu'il y a beaucoup à faire, en particulier aujourd'hui. Et donc j'ai réussi à être parrainé, à y rentrer, et ça a été un moment assez émouvant pour moi de me dire ça y est, après des dizaines d'années, je suis au Toulousain de Toulouse. Alors je suis simplement adhérent, je fais peu de choses, mais
un des combats du moment de cette institution.
Les combats sont nombreux. Il y a par exemple la transformation du site de Saint-Joseph de la Grave où va être créée une résidence de luxe.
Saint-Joseph de la Grave, rappelez-nous.
Oui, derrière le dôme de l'hôpital La Grave, le dôme si bien connu des bords de Garonne. Donc il y avait le centre Claudius Rego, centre anticancéreux Claudius Rego, qui est rasé. Et le site a été vendu par les hôpitaux de Toulouse à un promoteur qui va construire des appartements de luxe. Alors le problème n'est pas là, le problème c'est que cet immeuble qui va être construit va arriver en hauteur, à moitié de la hauteur du dôme de la Grave, et qu'il va porter préjudice au paysage de Garonne.
Et donc là, vous vous battez pour qu'il soit en haut, c'est ça?
Je pense que la lutte est vaine maintenant, puisque le permis est délivré, mais la présidente des Toulousains de Toulouse a beaucoup bataillé pour que quelque chose soit fait, rien ne sera fait. Mais il y a d'autres combats, puisque la promotion immobilière a tendance à malmener le patrimoine toulousain. Mais l'association des Toulousains de Toulouse ne se contente pas de défendre le patrimoine. Elle remet des prix à des architectes qui, quelquefois, réalisent des choses qui méritent qu'une association s'occupant du patrimoine les récompense.
Eh ben merci de cette balade à travers l'histoire et de cette balade donc dans les rues de Toulouse. Un grand merci à vous, Michel Aliaga. Et donc publicité est faite pour les Toulousains de Toulouse. Un grand merci à vous.
Je vous en prie, merci.
Cette émission est réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.